Vous avez remarqué dans cette dernière strophe que nous chantons, bien que l'on parle de les gloires célestes, mais nous rappelle que là, dans les gloires célestes, eh bien, nous exalterons ta mort expiatoire. C'est-à-dire, on n'oubliera jamais la mort de Christ, même dans la gloire. Hein, dans l'Apocalypse, il nous présente l'agneau de Dieu qui est immolé. Hein, c'est... Donc nous aurons oublié toutes les souffrances de la vie, mais nous n'oublierons pas que Jésus-Christ est mort pour nous, et même il nous promet de prendre la coupe avec nous une dernière fois. Hein, donc c'est, la croix est une chose que nous devons garder, et aujourd'hui nous allons encore parler de la croix de Christ, mais en fait nous avons tout à fait raison de garder la croix de Christ devant nous, parce que c'est une pensée que nous avons sur terre et que nous aurons aussi dans la gloire. Donc autant s'habituer à penser à la croix, c'est pas toujours, si on méditait qu'aux souffrances physiques, c'est sûr que ce serait pénible, mais quand on pense à ce que la croix veut dire, alors là c'est un message qui est pour l'éternité. Nous sommes dans cette série d'études qui est basée sur cette parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit « Nous prêchons Christ crucifié. » Et c'est ainsi que nous voulons aussi le prêcher, et avec tout ce qui s'y rapporte, bien sûr. Ce matin, j'ai intitulé notre étude « La croix met en relief ou en valeur la laideur du péché et l'amour de Dieu pour le pécheur. » C'est-à-dire la croix fait les deux choses, elle nous dit combien... le péché est laid devant Dieu, mais il nous fait savoir aussi combien est grand l'amour de Dieu. Et ces deux vérités sont là, en parallèle. C'est difficile pour nous d'y penser aux deux en même temps, mais c'est la croix qui les rapproche. Hein. Donc, le péché est une terrible offense pour Dieu, et puis la croix aussi nous dit combien Dieu nous aime. Alors, premièrement, nous allons essayer de nous donner une notion de ce que représente le péché pour Dieu, c'est-à-dire comment lui ressent la chose. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, et au chapitre 64. Je sais que souvent, dans nos conversations et avec les enfants et tout ça, on essaye de leur parler de péché, puis on parle toujours de gestes qui sont désagréables, de choses qui sont interdites et tout cela. Mais pour Dieu, c'est pas seulement ce qu'on fait, c'est ce qui l'intéresse surtout, c'est la relation, hein, c'est qu'il veut préserver. Et donc, je vais lire ces premiers versets dans Ésaïe, chapitre 64, et je lis jusqu'au milieu du verset 4. Mais remarquez que là, Jérémie, oui, bien sûr, Israël a péché. C'est une situation où Israël a péché. Mais en fait, ce que Ésaïe est en train de mettre en valeur, c'est cette relation qui a existé entre Dieu et Israël, et qui est perdue. Donc, Ésaïe 64, verset 1, il dit « Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. » Il parle de cette relation qui existe. Il a dit, mais il n'y a aucun autre Dieu sur terre qui a eu une telle relation avec son peuple, qui intervenait, qui même devançait, et qui prévoyait les besoins de son peuple. Il dit, ça ne se voit nulle part. Et c'est un peuple privilégié, et même les autres nations ont vu cela. l'ont constaté. Je pense, là, ça me vient à l'esprit, c'est Rahab qui parle aux deux espions et qui a dit, ouais, mais moi, nous, ça fait 40 ans qu'on est en train d'observer et on voit ce que Dieu a fait pour vous, comment il vous a fait sortir de l'Égypte et comment il a pris soin de vous dans ce désert où une famille ne pourrait pas vivre et là, il y a un peuple qui vit. Il dit, mais on est là, on constate, on remarque. Et Isaïe dit, mais Dieu, nous avions une relation extraordinaire avec toi. Tu descendais même jusque sur la montagne pour nous parler. Et puis on arrive au verset 4, au milieu du verset 4, et il y a un mot là qui fait tout basculer, c'est « mais ». « Mais ». Il y avait quelque chose d'extraordinaire. « Mais ». Il dit, et je continue à lire, donc, là, jusqu'au verset, à la fin du verset 5, il dit « mais ». Tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Et le verset clé là-dedans, c'est au verset 5, la deuxième ligne, il dit, « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et toute notre justice. Et s'il dit ça de la justice des hommes, qu'est-ce qu'il dirait de leur péché et de leurs actes? Il dit, « Votre justice, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en avant pour obtenir ma faveur, c'est comme des vêtements souillés pour moi. » Il dit, voilà. Il dit, parce qu'on n'a plus cette relation qu'on avait avant. Les actes détruisent la relation. Et ce que Dieu veut surtout, c'est la relation. Vous savez, regardez les péchés, les religions autour de vous, et les moyens, c'est toujours des actes. Fais des actes pour apaiser Dieu. Mais il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de nos actes. Il n'a ni besoin de nos prières, ni de nos bonnes œuvres. Ça ne change rien pour lui. Ce que lui veut surtout, c'est cette relation avec son peuple. C'est ça le message de l'Évangile. Mais lorsqu'il y a désobéissance, eh bien, la relation est attaquée, voire même peut être interrompue. Et c'est ça qui fait souffrir Dieu. Ça devrait nous faire souffrir aussi, mais tellement on est habitué à cette condition, cet état, que, eh bien, presque ça ne nous dérange plus. Hein, c'est avec les enfants, on est allé se balader hier, et puis on est passé dans un endroit où il y avait plein de chauves-souris. Et elles vivent dans le noir. Mais elles, sont tellement habituées, ça les dérange pas. Pour elles, c'est normal. C'est le soleil qui dérange. Mais on a un peu l'impression que l'être humain est arrivé dans cet état-là, où alors qu'il était créé pour être en relation avec Dieu, c'est ça que Dieu avait pensé, c'est Dieu qui avait préparé, ce que Dieu avait offert, et ce dont l'homme jouissait à l'instant de sa création, et maintenant, c'est pas seulement qu'on essaie de survivre sans Dieu, mais en plus, on veut nier son existence. Mais vous savez, il dit, oui, ce sont nos crimes qui nous dérangent et qui ont détruit ce qu'il y avait de plus précieux. Et si nous continuons dans le verset 7, je continue les versets 7, parce que c'est, en fait tout le chapitre traite de cette question. Il dit, au verset 7, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Et ne te souviens pas de notre crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont déserts. Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Rendez compte, ce n'est que lorsque tout est perdu, que tout est détruit, il ne reste plus rien, sinon un souvenir. C'est à ce moment-là qu'on dit, Dieu, écoute, tu ne peux pas nous pardonner. Tu ne peux pas... Nous sommes vraiment... À l'origine, on a été créés par toi. Et c'est là, vous savez, ça ne vous est jamais arrivé que quelqu'un fasse ou dise quelque chose qui vous blesse. C'est déjà quelque chose, ça blesse. Mais en plus, quand la personne vous dit, tu sais, ça m'a... Il hausse les épaules. Alors là, ça blesse encore deux fois. Hein, ça blesse encore plus, peut-être, que l'apparence et le fait que la personne, ça ne le dérange même pas. Mais combien de fois est-ce que nous avons fait ça avec Dieu? On a désobéi, il est blessé par cela, la relation prend un coup, notre vrille de prière prend un coup, pendant 2-3 jours je ne lis plus la Bible, et encore, hein, c'est heureux, si c'est que 2-3 jours, c'est bien. Hein, il y en a que ça dure. Et après, le pasteur il dit, vous savez, il faut lire la Bible. Oh, ouais, il faut avoir autre chose à faire. Hein. Ça blesse aussi. Ça ne nous dérange même pas. Combien de fois nous avons blessé Dieu? Ce comportement de la part de Dieu, le fait que, ben après il coupe, hein, la relation elle est coupée, ben on ne parle plus quand la relation est coupée. Mais ce n'est pas quelque chose, c'est pas tout d'un coup Dieu se met en colère. Lui, il n'a pas des crises de colère ou il n'a pas des poussées de colère. Mais c'est la règle chez Dieu. Quand la désobéissance et le péché intervient, la relation prend un coup. Ça, c'est depuis l'origine. Hein? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés et même tous les soirs, il venait parler avec eux par sa parole. Ça, on disait la parole de Dieu venait dans le jardin le soir et Dieu avait une relation avec Adam et Ève. Et puis un jour, hein, quand on lit dans Genèse chapitre 3, un jour, quelque chose est passé pendant la journée. Quelqu'un est passé par là. Et il a eu de l'influence. Et il a... Ève et puis suite à Adam ont désobéi au seul commandement qu'ils avaient. Et il y a quelque chose qui se passe. Verset 7, Genèse 3, verset 7 dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Sans qu'ils se rendent compte, tout d'un coup, c'est comme si les yeux s'ouvrirent, c'était une manière de dire les choses, mais tout d'un coup, ils ont pris conscience de quelque chose. Nus physiquement, c'est pas un problème, il n'y avait que eux deux. Hein. Et puis devant Dieu, c'est pas un problème. Si ce n'était que. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en eux. C'est une manière de dire, ils se sont sentis nus, ils se sont sentis quelque part. Hein, quand on a désobéi, eh bien tout d'un coup, on entend un petit bruit, ça fait peur. Parce qu'on est sûr qu'il y a papa est arrivé. Vous savez. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une rupture. Papa, que d'habitude, est tellement content de le voir, aujourd'hui, je suis dans ma chambre, je ferme la porte. Pourquoi? Il y a une rupture. Et après, lui, il vient toquer à la porte, il dit, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qui se passe hein, et là, vous savez, c'est la même chose qui s'est passée, et Dieu a dû dire, Adam, où es-tu? Bien sûr qu'il savait où il était. C'est comme le père, il sait qu'on est dans la chambre. Et c'est lui qui vient toquer à la porte. Et Dieu vient toquer à la porte. Il dit, mais écoute, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous. Tu as entendu ma voix et tu as fui dans le fond du jardin et tu as cherché l'ombre au lieu de venir vers moi comme d'habitude. Quelque chose s'est passé. Et Dieu parle de la relation avant de parler de l'acte. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et alors, on arrive à la fin du chapitre 3, il nous dit que Dieu les chassèrent du jardin. Il dit, wow, c'est sévère ça. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais bon, juste pour vous dire, il les a chassés du jardin pour pouvoir mieux les sauver. Mais je ne vais pas développer cela, remettez ça dans la tête, et puis on continue. Mais vous savez ce qu'il a fait avant de les chasser du jardin, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que j'aime Dieu. C'est parce que quand je lis la malédiction de Dieu sur Satan, sur le serpent, hein, eh bien ça me donne de l'espérance. Parce que quand je lis la malédiction que Dieu met sur Satan, il lui dit, je mettrai au verset 15, Genèse 3, 15, dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez, les serpents qui ont la tête écrasée ne vont pas loin. C'est très difficile de tuer un serpent. On peut faire de toutes sortes de choses. Mais une fois que la tête est écrasée, alors là, ça ne dure pas longtemps. Et il dit, mais avant de les chasser, il dit, mais je vous laisse une promesse. Viendra le jour où le descendant de cette femme écrasera la tête de celui qui t'a fait chuter. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il dit, bon, à cause de ce qu'il y a, la relation est brisée. Mais je vais faire tout pour la rétablir. Je vais tout faire pour la rétablir, pour la remettre en état. Et c'est extraordinaire. Donc, pour la notion du péché, le péché, la désobéissance, mais la désobéissance, mais en fait, c'est parce que ça attaque la relation. Et plus je suis désobéissant, moins la relation est bonne avec Dieu. Elle ne peut pas être bonne, elle ne peut pas s'entretenir. Je ne peux pas, même dans un couple, hein, je ne peux pas offenser ma femme et puis croire que c'est toujours comme le jour du mariage. C'est une relation qui s'entretient. On travaille ensemble, on travaille la relation. Et les actes découlent de la relation. Et c'est ça qui est si extraordinaire, si beau dans l'évangile de Jésus-Christ. David, nous avons lu Jérémie, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. David, dans le psaume 14, aussi, et lui c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, au psaume 14, eh bien il décrit justement ce que c'est que le pécheur, et nous voyons qu'à son époque, ben, ça ressemblait beaucoup à notre époque, hein, donc il y a 3000 ans de différence, et on parle de l'évolution, mais bon, ça évolue pas forcément. Hein, dans ce domaine-là. Mais au psaume 14, et je commence à lire au verset 1, hein, il dit au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Et là encore, il parle d'une promesse. Il dit, un jour, Dieu interviendra. Oui, d'accord, mon peuple, c'est pas, ils ne sont pas parfaits. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, même les enfants de Dieu, ce n'est pas parfait. Et si vous cherchez une église où ils sont tous parfaits, eh bien, rentrez pas, parce qu'elle ne sera plus. Hein, donc, c'est... Mais, ce que Dieu dit. Ils ne sont pas parfaits, mais j'ai un projet et je vais faire quelque chose. On va arranger, un jour ça sera arrangé. Et puis c'est tout à l'heure enchanté de la gloire céleste. Tout sera mis en place de l'ordre et Jésus présentera son épouse sans tâche, irrépréhensible, irréprochable, parfaite, belle. J'ai du mal à le croire moi-même. Mais lui, il y croit. Donc tant qu'il y croit, c'est bon pour moi. Hein? Mais chaque fois que Dieu décrit la laideur du péché, eh bien chaque fois il y a une petite parole pour dire mais j'ai ce qu'il faut pour arranger cela. Hein? Alors, ce serait cruel pour le médecin de vous dire écoutez, vous êtes malade et j'y peux rien, vous allez mourir. Et médecin, je dois vous payer pour ça en plus. Si je suis venu vous voir, c'est pour être soigné, c'est pour être aidé. Avec Dieu, il peut toujours aider. Peu importe l'état, pas où je suis passé, et combien j'étais loin, et pendant combien de temps j'étais loin de lui, eh bien, Dieu peut pardonner. S'il peut pardonner Saul, qui a persécuté l'Église, à l'époque la plus critique, quand c'était juste, ça démarrait, il y a un petit feu qui commence, et lui, il essaye de piétiner ce feu et d'éteindre. C'était très grave ce qu'il a fait. Il a dit, ce que j'ai fait, je suis le plus grand des pécheurs. Il a compris cela. Il a dit, c'était très grave. Mais il dit, mais Dieu m'a pardonné, m'a fait miséricorde. Et il a fait de lui un apôtre. Vous savez, cette notion de péché, eh bien, c'est important pour nous de comprendre le problème, le vrai problème. Hein? Donc, ce n'est pas une question de « Oh, j'ai fait des petits péchés », et puis oh, bon, après, des fois, on entend des expressions des péchés mignons. Je n'ai pas jamais entendu de microbes mignons, hein, ou de virus mignons. Alors, je ne sais pas pourquoi il y aurait des péchés mignons, mais en tous les cas, nous, on a une échelle, moi, il y a pire que moi, et tout ça. Il dit, mais ça n'a rien à faire, il a dit. La question, c'est la relation qui m'intéresse. Et à partir du moment que ça attaque la relation, c'est grave. Parce que Dieu tient énormément, plus que nous, à la relation. Maintenant que on a vu la situation, hein, telle que Dieu la voit, j'espère, c'est-à-dire une petite notion, hein, c'est ça que j'ai employé, une notion, parce qu'on ne la voit pas encore, on aurait du mal à le voir, on a une très mauvaise vision pour ce qui est des choses saintes. Mais ensuite, il nous faut une appréciation du remède que Dieu a pourvu. Il a pourvu un remède. Il nous parle d'un mal, mais lui après il nous dit, mais j'ai quelque chose à proposer. J'ai trouvé qu'il y avait un proverbe provençal. Il doit être très ancien, parce que je ne pense pas que les Provençaux, ils en servent maintenant, s'en servent maintenant. Il dit, à chaque mal, Dieu donne son remède. Maintenant, on ne parle pas de Dieu qui donne un remède. Hein. Mais il dit, à chaque mal, Dieu donne son remède. En fait, ce qu'ils sont en train de suggérer, c'est qu'il y a une solution pour toutes les maladies. Hein. À l'époque, certainement, ils allaient chercher une herbe, une plante, quelque chose qui pourrait soulager, hein, c'est, je suppose, à l'époque, mais c'est vrai. À ce problème du péché qui attaque la relation qui doit exister entre Dieu et sa créature, eh bien, il y a un remède. Dieu en a préparé un. En fait, c'est extraordinaire, et c'est ça un peu ce qu'on soulignait dimanche dernier, c'est que avant de créer l'homme, il a déjà préparé le remède. Parce qu'il nous dit, avant la fondation du monde, il avait déjà prévu la réponse. En vue du péché des hommes, et avant de créer l'homme, il a préparé. Vous imaginez, hein, on forme les mécaniciens avant de créer la voiture. Mais c'est comme ça, il dit, parce que je veux assurer l'entretien du véhicule que je crée. Ce mal que nous subissons, eh bien, la Bible l'appelle le péché. Hein, c'est pas un mot que les gens aiment entendre. Mais bon, à moins de donner un nom au mal, eh bien, on a du mal à trouver une solution. Mais vous savez, Dieu est le créateur de l'homme et c'est lui qui pourrait trouver le remède. Hein, il sait, il comprend le problème. Donc, la première chose, si nous voulons un remède, c'est d'abord c'est de constater le mal et de l'admettre son existence. Hein. Il y a un adage éthiopien qui dit: pour qui cache sa maladie, il n'y a pas de remède. Si je ne suis pas prêt à admettre mon problème, eh ben, personne ne peut le soigner. Hein, et donc la première chose pour chacun d'entre nous, c'est de comprendre, dire, oh, Seigneur, c'est vrai. Bon, c'est plus une question de, il y a pire que moi, où j'ai jamais volé de banque, j'ai jamais tué quelqu'un. Mais bon, heureusement pour nous, hein, 99% des gens du monde n'ont jamais tué quelqu'un, heureusement. Hein. Mais, et alors? Hein. Il y en a qui ont volé des banques, il y en a encore plus qui auraient voulu voler les banques, mais ils avaient peur. Mais même, c'est pas ça, c'est pas là. C'est une question de, écoute, qu'est-ce que tu as fait qui a attaqué la relation avec Dieu? Est-ce que tu reconnais que il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avoir cette relation avec Dieu, ou de l'entretenir, ou de la rétablir? Dieu dit franchement, il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, voilà, le péché prive. On n'a plus, normalement, avec le péché, on ne peut pas venir. Mais vous savez, Dieu est bon, et il est toujours bon. Et s'il nous informe qu'il y a un mal, c'est qu'il a quelque chose à proposer pour nous soulager, voire nous délivrer. Hein, c'est ça que nous disions tout à l'heure. Hein, avant de chasser Adam et Ève du jardin, il leur a dit: mais j'ai déjà prévu la fin du serpent. Le concept de quand il y a péché, il y a condamnation. Certains ont un choc, ils disent: ouais, c'est quand même dur ça. Hein, péché et puis condamné à mort. C'est sévère. Oui, mais nous, ce principe, on le pratique tout le temps. Vous allez dans un hôpital et vous voyez tous ces gestes qu'ils font pour que ça reste stérile. Hein, dès qu'il y a une personne qui a le staphylocoque, c'est la panique dans tout l'hôpital. Parce que y a des chances que ça se répande. Tout de suite, c'est presque comme si tout le monde est condamné et on fait tout pour les protéger. Mais Romains chapitre 5, regardez avec moi, Romains chapitre 5, en fait, c'est ce qui est arrivé. On craint que ça arrive dans un hôpital quand les staphylocoques dorés, par exemple, se déclarent. Alors là, il y a des mesures exceptionnelles pour essayer d'enrayer cela. Et puis on se sert de la quarantaine quand il faut. Mais Romains chapitre 5, verset 12, il nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le staphylocoque qui est rentré à l'hôpital, tout d'un coup, tout l'hôpital est condamné. Hein, si on ne fait pas attention, tout le monde est malade. Et c'est la mort pour tous. Il dit, mais le péché, c'est la même manière. Il y en a un qui l'a fait, mais il est entré dans le monde et puis il a infecté tout le monde. Et nous sommes tous pécheurs pour cela. La preuve, il suffit de se regarder un peu dans le miroir et un peu regarder sa vie et on voit que le péché nous a atteints. Oui, mais regardez au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dieu est juste. Il a dit, un seul a suffi pour infecter tout le monde, eh bien, un seul suffira pour purifier tout le monde. Et, parole, il dit, j'ai pourvu un moyen. Et en fait, s'il a pourvu un moyen, regardez au verset 17, il dit, donc Romains 5, 17, il dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Il parle de l'abondance de la grâce. Ah, c'est là où ça intervient. Mais bien sûr que nous sommes infectés et nous sommes condamnés parce que nous sommes descendants d'Adam. Ainsi, pour ceux qui essayent de dire qu'on est issu de plusieurs hommes d'origine, eh bien, si c'était vrai, hein, donc il y avait un Adam, un premier Adam et Ève, et puis après il y avait un autre Adam et Ève par ailleurs, eh bien, il y aurait une partie de la population qui serait pécheur, l'autre partie qui n'aurait pas. Hein, si. On sait que tous sont issus du même arbre parce que, on est tous infectés du même problème. Il n'y a pas de possibilité. Le fait que nous sommes pécheurs, que nous avons tous cette même nature, on va tous dans le même sens, montre qu'on a une même origine et on a été créés par eux-mêmes. Hein, on n'a pas besoin d'aller fouiller la terre pour voir s'il n'y a pas d'autres. Hein. Il faut beaucoup de foi pour un peu comprendre leurs histoires, parce que, vous savez, ils nous disent que Adam, il a apparu quelque part, et puis Ève, elle a apparu ailleurs. Après, ils ont dû se rencontrer, je ne sais pas comment. Hein, il faut croire aux histoires de fait, hein, pour croire à certaines explications qu'on nous donne. Dans la Bible, s'il y a de plus simple, et même si ça demande la foi, mais ça demande moins de foi que certaines histoires qu'on raconte. Et il nous dit que la grâce de Dieu intervient. La grâce de Dieu ne sauve pas. Hein? La grâce ne sauve pas. La grâce offre le pardon. Hein? Il nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen qui sauve, c'est la foi. La foi en ce que Dieu a pourvu, que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Je fais confiance en cela et c'est la grâce qui me propose cela. Hein. Et donc, la grâce ne sauve pas. Dieu serait injuste de dire, écoute, t'es gentil, il y a quelque chose en moi qui tu me plais, t'es sauvé. Ce serait injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu dit, tu es pécheur, reconnais que tu es pécheur, reconnais, et on va arriver à ça, que Christ est mort sur la croix pour tes péchés, accepte-le, et je te propose une sortie. C'est une grâce que je te fais, accepte-la. Et c'est là, c'est ça la grâce. La grâce ne se donne qu'à des gens qui sont indignes de recevoir. Il faut déjà reconnaître qu'on est indigne, sinon on dit, mais pourquoi tu me fais grâce? Moi, je n'ai pas de problème. Mais quand je me rends compte que je suis un condamné et qu'on me propose cette grâce, ce moyen de sortie, eh bien là, j'exprime de la reconnaissance. Hein. La grâce, elle ne s'impose pas. Elle est reçue, elle est acceptée. Et donc, c'est la foi qui est là, qui nous permet de croire. Hein, la grâce, Dieu nous offre, c'est par grâce que Dieu nous offre le don du salut pour quiconque le reçoit. Et donc, le mal existe, il y a une situation grave, c'est pas seulement la question du péché, mais c'est le rétablir la relation. C'est pour ça qu'on parle dans l'Église, on parle beaucoup de communion. Communion avec Dieu, communion les uns avec les autres, parce que c'est ça l'objectif. Pourquoi écarter le péché? C'est pour que la relation se rétablisse, pour qu'on puisse avoir la communion. Pourquoi est-ce qu'on parle de gens qui s'approchent de la table du Seigneur? On dit, mais il faut que vous soyez en communion avec le Seigneur. Parce que c'est ça, le Christ est mort, c'est pour rétablir la relation à la communion. Or, si la communion n'existe pas, il y a un problème. Il y a quelque chose à régler avant de s'approcher de la table. Parce que la coupe et le pain représentent le prix que Dieu a payé pour rétablir la communion. La croix, bien sûr, nous montre la laideur du péché devant Dieu, mais aussi elle nous fait connaître, apprécier l'amour de Dieu. Et vous savez, et je vais venir à un verset qui est tellement bien connu, mais il le dit tellement bien, hein, c'est Jean 3, 16, hein, il le dit tellement bien que c'est pas parce qu'on le connaît par cœur qu'il faut pas s'arrêter dessus et méditer souvent. Et il dit, et on le sait, parfois on le connaît trop bien, tellement bien qu'on ne pense pas au sens quand on le dit. Hein. Il dit Jean 3, 16, ah oui, 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 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça veut dire quoi? Non, je ne sais pas, j'ai pas pensé. Bon, vous savez, il y en a beaucoup qui disent notre Père aussi comme ça dans leurs églises. Hein, ils les récitent et puis ils n'ont même pas une idée de ce que ça représente. Moi, je leur dis, écoutez, la Notre Père, là, moi, j'aurais du mal à la prier. Je ne suis pas toujours en état de pouvoir prier. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux que nous avons offensés. Alors, tu es à la hauteur? Et donc, il faut s'arrêter. Et là, il dit, Dieu a tant, j'aime bien le cœur qu'on enseigne aux enfants, Dieu a tant et tant aimé le monde. Et là, c'est que trois fois. Mais en fait, on devrait le dire encore plus que cela. Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, il a tellement aimé l'humanité, c'est-à-dire qu'il y avait un amour qui était tellement fort que ça l'a poussé à faire quelque chose. Il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il était déjà en voie de... Il allait mourir déjà, c'est déjà condamné. Et il le dit au verset suivant, au cas où on ne l'a pas compris. Et au verset 17, il dit, Dieu en effet a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il... n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il dit donc, la condamnation est déjà là. C'est lui Dieu. C'est la relation avec lui que nous voulons. Alors si lui nous dit que c'est condamné, il dit, mais Dieu nous a tant aimés, sachant que nous étions déjà sous la condamnation, que son amour était tellement fort que ça l'a poussé à faire quelque chose. Vous savez, le vrai amour provoque un geste. Les gens qui aiment et qui font jamais rien, c'est pas de l'amour. Hein. L'amour, ça se montre par un geste. Un geste dans l'intérêt de l'autre. Hein, que, si pour la fête des mères, j'achète à ma femme, c'est pas une perceuse. Il dit, tu penses à qui? Il dit, tu sais, je t'aime tellement, hein, je t'achète cette perceuse. Il dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça marche même pas dans la cuisine. Mais, vous savez, Dieu, il dit, écoute, je vous aime tellement, je vais faire un geste. Mais je vais faire un geste vraiment pour vous dire combien je vous aime. C'est ça que je disais... dimanche dernier, je crois que je disais ça. Je dis, vous savez, des fois, vous recevez un cadeau, c'est un cadeau. C'est n'importe quoi. Et puis, des fois, quelqu'un vous donne un cadeau, mais c'est exactement ce que vous voulez. Vous dites, ah, mais cette personne, elle a cherché à savoir ce que je voulais et elle me l'a donné. Ça, c'est un vrai cadeau. Hein? Ça, c'est un cadeau où il y a du cœur. L'autre, c'est un cadeau, c'est pour se défaire d'un devoir. Et Dieu, eh bien, il nous a fait un cadeau qui correspond exactement à ce dont nous avons besoin. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons comment il l'a donné. il l'a donné, il l'a laissé. Et juste avant, Dieu, Jésus dit, mais c'est vrai, tu veux que je meure, mais que ta volonté soit faite. Ma volonté, c'est que tu meures. Je le veux, parce que j'aime tellement. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde, ce monde qui était déjà perdu. Et il dit, et je propose un remède. Il dit, sa mort, et quiconque croit en sa mort, prend cette initiative de faire confiance et de recevoir, eh bien celui-là, je remplace la mort par la vie. Il ne périt point, mais il reçoit la vie. Et non pas seulement la vie, mais la vie qui permet la vie, une vie spéciale qui permet de vivre dans la présence de Dieu. Ce que Adam avait quand il a été créé, c'était pour vivre sur terre. 1 Corinthiens 15 nous parle de la résurrection. Il dit, nous serons transformés. 1 Jean, il nous dit, nous sommes transformés à son image. C'est la vie éternelle, c'est pas le souffle qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui nous permettra de vivre dans la présence de Dieu et d'avoir une relation complète avec Dieu, qui nous permettra d'être vraiment synchronisés avec lui dans nos pensées, dans nos actes, en toutes choses. Qui nous permettra vraiment de penser ses pensées. Parce que pour l'instant, il dit, vos pensées sont fous, c'est tellement loin de mes pensées. Ici en France aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de rêver de cette coupe. Et comme si ça allait leur faire leur bonheur, mais ça va durer une semaine. Et après, on retombe dans le train-train de tous les jours. Hein. La dernière fois, c'était, ouais, comment on disait ça, blanc, beurre, oui. Et, ouais, ça y est. La France, elle est composée de black, blanc, beurre, donc ben, voilà, tout est réuni. Ça a duré une semaine. Vous savez, c'est pas. Là, pour un truc comme ça, tout le monde s'emballe. Le Seigneur nous propose quelque chose qui va durer pour toujours. Et les black, blanc, beurre, ils seront bien là-bas. Et ça restera. Ça donnera de la couleur dans le ciel. Hein? Ouais, je plaisante pas là, hein, parce que nous dit, hein, vous lisez Jean, il a regardé dans le ciel et puis il a dit, waouh, il y a des gens de toutes nations, de toutes tribus, de partout. Comment il a su ça? C'est parce que tous ils étaient blancs. Mais il n'aurait pas pu le savoir si tous étaient blancs. Dieu est un Dieu qui aime les couleurs. Il nous en a mis plein les yeux sur la terre. Il nous a donné même les moyens de les apprécier. Et il n'a pas changé, il ne va pas changer. Hein. Va arriver là-dedans, mais ça va être beau. Vous savez, j'aime imaginer, là. Je vais me laisser aller un petit peu pour vous. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. Je fais comme l'apôtre Paul, il dit, ouais, c'est ce que je pense. Mais, vous savez, quand il y aura la chorale céleste de tous les rachetés, j'imagine les couleurs, les agencements de couleurs vont être tels que quand on regarde, on voit l'image de Christ. Vous savez, j'avais déjà vu ces dessins où c'est les ombres et tout ça. Puis ça fait, quand on est tout près, on voit rien. Et quand on s'éloigne, waouh, on voit quelqu'un. Mais c'est un peu. Bon, je rêve un peu, mais j'imagine que ça sera mieux. Mais c'est comme ça que moi, c'est pour ça qu'il faut des couleurs, il faut des traits là-dedans. Si on voit rien, c'est pour ça que c'est tellement difficile de peindre un bébé parce qu'il n'y a pas de traits. Tout est lisse. Mais vous travaillez plus de tableaux avec une personne âgée qui a plein de rides, c'est plus facile à dessiner. Le Seigneur, il mettra des couleurs. Parce qu'il n'y aura pas de rides, il mettra des couleurs. Ça y est, je reviens maintenant. Je reviens à la parole de Dieu. Ça, voilà. Mais, non, mais c'est un peu, je pense que c'est un peu l'esprit de la chose aussi. Mais vous savez, il nous offre, hein, il y avait un gros problème. Et Dieu dit, moi je tiens surtout à la relation et je veux la rétablir. Je sais, je la veux plus que vous, mais je la veux. Et je vais tout faire, c'est à mes frais, c'est moi qui assume tout pour que vous puissiez retrouver cette relation avec moi. Et c'est la croix de Christ, c'est ce message-là. C'est combien il a envie de rétablir la relation avec l'être humain. Et jusqu'à quel point, ça nous dit jusqu'à quel point il est prêt à aller pour le rétablir. C'est offrir son fils en sacrifice, le laisser mourir, le laisser maltraiter alors qu'il pouvait le défendre. Dieu aurait pu, comme ça, Jésus même l'a dit, il a dit, tu peux m'envoyer une légion d'anges, ça me protège, hein, j'ai pas besoin de toi, Pierre. Mais il a rien fait. C'était pour nous dire combien il désirait cette relation avec nous. Et il dit, et puis en plus, j'ai fait le nécessaire pour que vous puissiez venir dans la gloire céleste. Pas seulement un paradis terrestre ou sensuel, comme certains proposent, mais la communion avec Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de la croix. Oui, le péché est laid, mais l'amour de Dieu est extraordinaire. Pas pour fermer ses yeux, mais pour payer le prix qui va nous délivrer de cela. Nous allons nous arrêter et certainement chacun d'entre nous, on pourrait déjà dire merci au Seigneur pour cela. Mais peut-être dire, Seigneur, je me rends compte que j'étais offensé et en plus j'ai haussé les épaules. Et je te demande pardon pour cela. Et peut-être il y a autre chose que le Seigneur a vu et que le Seigneur puisse le dire dans le silence, là, quelques minutes de silence. Dites vite à Dieu ce que vous avez besoin de lui dire maintenant et puis vous réglerez la suite plus tard peut-être, mais et puis après je prierai.